vendu mon arme et t'as la petit bistrot pour la peine et ton bac.
Moi, tu veux pleurer dans la avec nous, la vie est verte.
Bonheur jusqu'à 20h. Stop wasting my time. You know what I want. You know what I need. Oh, maybe you don't. Do I have to come right flat out and tell you everything? Give me some money. Je commence à dire bonjour parce qu'il fait encore clair. C'est ça le changement d'heure. Quand on avance d'une heure, maintenant à 19h, il fait encore soleil dans la fenêtre. Ce qui me rend plus heureux. Hier, quand j'ai terminé mon émission et je me suis dit « Hey, je peux remettre mes lunettes soleil puis marcher jusque chez moi puis il va faire encore clair », ça m'a mis un sourire d'en face. Bonjour, bienvenue à la Bonne Heure. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une heure. On a commencé ça avec Louis Clavis et Rose qui avaient participé à la chanson de Louis Clavis « La richesse des pauvres » du projet « Écho d'une vie distante » volume 1. Et là, on vient d'entendre « Spinal Tap »,« Gimme some money ». Bon, c'est ça, je me suis dit, je vais mettre une chanson d'argent parce que c'est jour de budget aujourd'hui. Contrairement à plusieurs personnes qui n'ont pas participé au huis clos, mais dès la fin du huis clos, ont déjà une opinion sur le budget parce que c'est comme ça dans le commentariat, hein. Faut avoir une opinion rapidement sur un enjeu. Moi, j'ai écouté des gens me parler de ce budget-là, mais j'ai pas une opinion bien importante ou très éclairante là-dessus. On va en connaître plus dans les prochains jours. J'écoutais Mathieu Dion, anciennement de Radio-Canada, maintenant à Bloomberg, qui parlait du budget du Trisac. Lagacé. Je me mélange de franc-tireur. Oui, Patrick Lagacé, 98.5 au retour, puis parlait justement de comptabilité créative. Il y a une ligne qui fait que dans une couple d'années, on a un 2 milliards qu'on va aller chercher à quelque part. On sait pas encore où. On présume de l'optimisation. Ça va être un terme que vous allez entendre de manière vous allez être tanné d'entendre parler d'optimisation dans les prochains mois, c'est sûr. Mais c'est ça que le gouvernement s'enligne. En tout cas, 11 milliards, on fait les manchettes avec ça, dire ben on a un record historique de déficit, 11 milliards. J'ai écouté peut-être 5 minutes d'Éric Girard qui avait son budget dans les mains comme un livre. J'avais l'impression qu'il faisait l'heure du compte pour un peu nous endormir. Je sais pas. Puis en arrière, t'avais la ministre de l'Habitation, Bernard Drinville. Puis, oh boy! Ça a pas l'air facile. Fait que je vais vous en parler peut-être plus dans la semaine prochaine ou dans deux semaines ou les prochaines semaines parce qu'il va y avoir tellement d'opinions ridicules qui vont dire là-dessus que moi je vais colliger ça. Puis si j'ai le temps, je vais vous en faire jouer la semaine prochaine. Mais je me connais déjà, la semaine prochaine, il y en aura un autre sujet puis je vous parlerai pas de ça finalement. Fait que à un moment donné, il faut que je me dompte, mais j'ai encore cette vision utopiste que quand arrive, tu sais, des fois le lendemain là, de cette émission aussi, mercredi, je peux avoir un sujet pour la semaine d'après puis je me dis, c'est sûr, j'aurai pas le temps d'en parler. Mais cette semaine, c'est le cas. J'ai un sujet un peu plus léger. Je vais parler de vidange, je vais parler d'ordures, parce que la ville de Laval a annoncé une nouvelle, tu sais, relativement... je veux dire, moi, je pensais pas que ça allait faire autant de vagues. Surtout, ça allait faire une entrevue à Paul Arcand. Puis le lendemain, les co-commissaires Nathalie Normando et Luc Ferrandez allaient parler de ça, tu sais, une subvention de 50$ pour subventionner des couches réutilisables, pas pour les enfants, mais pour les adultes, ainsi que les produits menstruels réutilisables. 50 000$ pour réduire les déchets. Moi, je me dis, ben, c'est une manière comme une autre. Il y a des bâtons, il y a des carottes pour faire réduire le nombre de tonnes de déchets qu'on enfouit, parce que ça va vous coûter de plus en plus cher, parce qu'il y a de moins en moins de place pour enfouir nos déchets. Ben, c'est ça. J'écoutais Nathalie Normando, puis j'étais comme, tiens, je dis, c'est pas difficile de se préparer. Surtout si, tu sais, vous avez deux enjeux le matin, puis un de vos enjeux, c'est ça. Je me dis, tu sais, préparez-vous un peu plus, là. Marois Risky qui lui envoie une ligne, puis je veux dire, la ligne est même pas bonne. En tout cas, je vais vous parler de ça un peu plus tard. Sinon, l'enjeu que je voulais vous parler, c'était hier. Non, pas hier, pardon. La semaine dernière, Richard Martineau qui... écoute, j'ai écouté sur deux soirs la 500e de Tout le monde en parle. C'était cute, là. C'était comme on réinvite Christian Bégin puis Stéphane Rousseau pour parler de la foi où Christian Bégin a dit ça. Là, okay, on se rappelle de souvenirs. Mais Richard Martineau a pris beaucoup de temps de glace pour dire pas grand-chose à part faire son Richard Martineau. Puis j'ai dit, oh, c'est un barouette. Il a donné du temps de glace, en fait, à une association CIJA, peut-être que vous dites, ben, est-ce que c'est une station de radio? Ça a quatre lettres. Non, c'est le Center for Israel and Jewish Affairs, le Centre des affaires israéliennes et juives, qui est une organisation de défense des droits sionistes et juifs et une agence des fédérations juives du Canada, fondée en 2004. Entrevue par rapport à une manifestation qui a eu lieu la semaine dernière. Puis j'avais vu ça vite, c'est comme une manif devant une synagogue. J'étais comme, ah, aidez-vous, je suis pas trop sûr de comprendre le truc. Fait que mon premier réflexe, ça a été, ben là, t'sais, aidez-vous. Puis après ça, c'est pas très, très difficile de juste creuser puis te rendre compte que, OK, c'est pas juste une synagogue, OK, c'est également le musée de l'Holocauste, c'est également les bureaux de CIJA, entre autres. Puis il y avait quelque chose, un événement qui se passait à l'intérieur. Puis tout le long de l'entrevue à Cube avec Richard Martineau, on ne parlait pas de l'événement à l'intérieur, on parlait juste des manifestations à l'extérieur. Puis on leur accolait des étiquettes d'antisémites et de racistes. Un peu la même chose qu'on fait présentement. En fait, que certaines personnes tentent de faire que Jonathan Glazer et ce qu'il a fait aux Oscars, tu sais, c'est-à-dire, hey, j'ai fait un film. Puis avec ce qui se passe à Gaza présentement, tu sais, en tout cas, même si la personne elle est juive, même si elle s'est battue en fait pour des droits humains pendant nombre d'années, je veux dire, tu peux pas apporter la critique que Jonathan Glazer a fait sans avoir l'étiquette d'antisémite. Moi, ça me trouble profondément parce que c'est une étiquette qui est lourde de sens. Puis c'est parce qu'il y en a vraiment des gens qui sont antisémites. Il y en a des gens qui sont antisémites. Il y a des décisions qui sont antisémites. Par le passé, par le présent, par le futur. Mais là, présentement, dès qu'on veut apporter une critique envers ce que l'État d'Israël, ce que le gouvernement fait, ce que l'armée fait, c'est pas vrai qu'on va accoler des étiquettes d'antisémites et de racistes à tout le monde. Fait que j'écoutais cette entrevue-là, puis j'étais comme... Richard, qui donne souvent des leçons de journalisme à qui mieux, il aurait pu se forcer, juste creuser un peu plus son sujet, puis pendant l'entrevue, tu sais, il pose la question, ah, c'était quoi l'événement? Ah, il y avait un événement, c'était pas juste une manif devant une synagogue, puis la personne qui représentait le CIJA, Etta, Yudin, ne mentionne jamais vraiment c'est quoi l'événement. Puis moi, ça m'a tiqué, fait que j'ai le goût de parler de ça. Puis je vais parler de vidange aussi, puis de Ville de Laval, puis de... Des sujets qui semblent anodins, mais honnêtement, ça va être un gros problème, les ordures, dans une couple d'années. Puis, si la carotte fonctionne pas, ça va être le bâton. Puis, dans un avenir pas si lointain, s'il y a des municipalités qui commencent à vous dire chaque maison va avoir tant d'ordures qu'ils peuvent jeter par semaine ou aux deux semaines, puis le bac, et on va savoir s'il est plein, mais on peut pas rien prendre de ce qui est à côté... Puis il va y avoir des chicanes de voisins, de gens qui disent « Moi, je veux pas rembarquer là-dedans, j'ai plus de vidange, c'est pas vrai, je vais faire du compost. Fait que je vais aller porter des vidanges dans les bacs de mes voisins, puis avoir une police des vidanges. » Je vous dis, si on ne se dompte pas collectivement, il y a toujours des gens, bien sûr, qui respecteront pas des règlements puis des lois, mais imaginez le coût là, pour faire passer des polices des vidanges là, un peu partout si les gens ne respectent pas certaines données, de dire « Vous avez le droit à tant d'ordures par semaine. » En tout cas, je regarde ça aller, puis je sais que ça n'ira pas en s'améliorant si les gens ne s'éduquent pas eux-mêmes. Puis c'est toujours la même chose. Le gouvernement fait pas assez pour ça, devrait en faire plus avec des inspecteurs puis des amendes salées. Mais ça fait que l'État va grossir avec ça, parce qu'on a besoin de plus de fonctionnaires pour faire cela. Puis l'autre principe, c'est le principe de, ça passe par l'éducation, ça passe par, la prévention, la sensibilisation. Il y a des gens qui se disent « je paye des taxes, mais c'est vrai que si le coût pour enfouir des ordures augmente année après année, ça va me coûter de plus en plus cher de taxes si je commence pas à faire du compost. » Oui, du compost, ça peut puer si c'est mal fait, mais si c'est bien fait, on s'en sort facilement. Moi, depuis que le compost est implanté sur ma rue à Montréal, de cela plusieurs années, mon sac à ordures, je crois que je le sors au... 3 semaines, 4 semaines, c'est beau. On fait encore beaucoup de recyclage, puis ça, c'est un autre problème aussi, parce que, tu sais, on transfère un sac par un autre, on se dit, mon sac à ordures est de plus en plus vide, bonne nouvelle, puis tu regardes le sac bleu pour le recyclage, ça, lui, il se remplit, parce que on a de plus en plus de trucs qui sont recyclables, c'est une bonne chose, mais ultimement, ce sac-là, lorsqu'il s'en va au centre de tri, puis là t'apprends qu'il y a des trucs comme les bouteilles de vitre qui font que ton recyclage peut faire que le carton est de moins bonne qualité, va moins se vendre, puis il y a des trucs qui ultimement se rendent à l'enfouissement. Ça, c'est pas correct. Fait que je suis content que les bouteilles de vin, par exemple, lors de la consigne qui va partir en mars 2025, les bouteilles de vin ne soient plus dans le recyclage, qu'on allait porter. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à ce jour, on m'a toujours pas expliqué de manière... On ne m'a pas convaincu que mon carton de lait que je mets dans le recyclage, faudrait que j'aille le porter à l'épicerie, parce que maintenant, il va avoir, à partir de mars 2025, une consigne sur ma boîte de mon carton de lait de 2 litres de lait. Ça, je comprends pas, parce que ça, dans ma tête, ça ne contamine pas le reste du recyclage. C'est pas de la vitre. Ça, je le comprends pas. Est-ce que c'est une manière un peu détournée de financer le recyclage, parce que les gens vont, les politiciens se disent, ben, plusieurs citoyens qui, tu sais, de toute façon, mettent leurs canettes d'aluminium dans le recyclage, ben ça, les compagnies de centres de tri le récupèrent, vont faire un peu d'argent avec ça. C'est cette manière-là détournée de financer le recyclage. Peut-être c'est ça. Moi, ça me gosse. Ben honnêtement, ça me gosse de me dire, mes cartons de lait, faut déjà reporter ça à l'épicerie à chaque semaine, alors qu'on a une collecte de recyclage qui passe devant chez moi. Je comprends pas trop. Mais bon, on va y aller tout de suite en musique avec Clara Luciani de son album 5 Victoires, la chanson Drôle d'époque, puis par la suite Bande de garage de l'album Corpo, Trash Vidange et la pièce Dompe. Sur les ondes de la marge, toujours plus de hits. Bonne émission.
Marche même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin, tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules pour être une femme de mon époque, ou vivre vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir ta mère et ta sauveuse, que je porte ma croix en restant amoureuse. Mais je sais pas être cette femme. Thank you.
bande de garage de leur premier album Corpo Trash Vidange, c'était la pièce Domp. Je me rappelle, c'était les 10 ans de quoi déjà? Compagnie de disques qui faisait un spectacle justement avec les artistes de leur compagnie de disques. Puis là, bande de garage, c'est comment? On prépare un nouvel album. Moi, j'avais adoré leur deuxième album, Stone Rock, francophone. Allez écouter ça, ça vous tente, bande de garage, B-A-N-D, espace D-E, espace garage. Puis pendant le spectacle, il avait dit, ouais, on est en train de travailler sur notre troisième album, après Cassette 2, qui est sorti en 2008. Puis c'est jamais arrivé, malheureusement. Mais en tout cas, moi, je suis un gros fan de l'album Cassette 2. Ça vous tente d'écouter ça, bande de garage. Avant ça, c'était Clara Luciani, grosse chanson, Drôle d'époque, et le nom de la pièce tirée de son album Sainte Victoire. Comme je le disais en début d'émission, c'est-à-dire avant les deux chansons, je vais vous parler un peu de vidange. Moi, ça fait partie de mes passions. J'ai souvent l'argument facile de dire des fois des enjeux simples lorsqu'ils sont expliqués sur un coin de table. Imaginez des gens qui sont chroniqueurs, chroniqueuses qui sont pas capables de décortiquer un enjeu simple. Quand arrive un enjeu complexe, est-ce qu'on peut vraiment se fier à eux? Des fois, je le pense. Des fois, je me dis, c'est peut-être juste une question de temps ou de paresse. Parce que quand un enjeu est plus complexe, ils vont peut-être passer plus de temps à l'analyser. Puis des fois, tu sais, un petit lundi, un petit mardi, il y a des enjeux plus simples. Disons, on va parler de subvention, puis c'est une bonne idée ou non, puis on a une idée là-dessus. Justement, cette journée pré-budget, il y a Jonathan Trudeau puis il y a Paul Arcand ce matin au 98.5 à l'émission de Paul Arcand qui parlait du budget à venir, puis Paul Arcand a dit ceci. Budget à venir ce matin, qui est là maintenant, est déposé. Bien sûr, on parle du budget d'Éric Girard. Voici ce que Paul Arcand avait à dire ce matin.
Mais en même temps, les citoyens sont responsables parce que les citoyens en demandent de plus en plus. T'sais, on veut avoir des services, c'est correct. On veut que les gens soient bien payés, c'est parfait. Mais là, tu sais, quand je vois, puis je vais prendre un exemple, ça veut rien dire, mais en même temps, je vois la Ville de Laval qui annonce un programme pour rembourser des couches pour adultes puis des produits menstruels. Je veux dire, est-ce que c'est le rôle d'une ville de faire ça? Moi, je pense pas. Et puis la liste est longue, là, les petits coffrets pour les nouveaux-nés, puis ce sont des petites dépenses, mais c'est comme si les gens là, veulent que le gouvernement paye pour tout.
Pis c'est là que j'ai appris, une subvention, Ville de Laval. Je travaille pour la Ville de Laval au 3-1, pis j'avais pas vu ça passer. J'avais pas vu le communiqué de presse qui est paru lundi 11 mars à 13h. C'est là que je finissais à 3, puis j'ai commencé à midi aujourd'hui. Fait que j'avais pas vu ça passer hier. Laval soutient l'accessibilité aux produits d'hygiène durable dans la continuité des efforts pour promouvoir des pratiques éco-responsables et soutenir la santé et le bien-être de la communauté lavalloise. Le comité exécutif déposera pour avis de motion à l'Assemblée du Conseil municipal le 12 mars, c'est-à-dire ce soir, le projet de règlement visant la mise en place d'une nouvelle subvention de 50$ pour l'achat de produits d'hygiène durable. Les produits visés incluent les coupes et les disques menstruels, les serviettes et les protèges de sous-lavables, les sous-vêtements absorbants lavables, ainsi que les culottes d'incontinence lavables. Ça, c'était ce matin, mais également, c'est pas juste une ligne comme ça en disant, bon, ben les gouvernements, les municipalités mettent une somme d'argent là-dessus. Pour ce qui est de Laval, c'est 50 000$ sur un budget de 1,17 milliard de dollars. C'est une goutte d'eau, bien sûr. Puis, je sais pas, certains disent, bon, ben c'est le message que ça envoie. Si les villes peuvent dépenser ces sommes-là, ils ont pas besoin d'autre argent. Moi, je trouve que c'est un argument qui tient pas la route, surtout pour les sommes dont on parle. Quand les villes ont besoin d'argent, on parle pas de 50 000$. On parle de montants un peu plus importants. Mais c'était aujourd'hui, c'est ça, un sujet avec les co-commissaires Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau. On va écouter Nathalie Normandeau, justement, à cet effet. C'était ce matin.
Tout d'abord, Laval semble faire office de pionnier pour ce qui est d'offrir des couches réutilisables, des couches d'incontinence réutilisables. Puis on peut fondamentalement se demander ce que c'est cette mission est compatible avec le champ de compétences des municipalités. Moi, j'ai envie de vous dire non. Non. Utiliser les taxes et des contribuables municipaux pour offrir ce genre de produits aux citoyens. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'une municipalité de le faire. Alors, ça appartient plutôt au gouvernement provincial via toutes ces instances. Également, les organisations communautaires qui souvent comptent sur des subventions du gouvernement.
Comment je dirais bien ça? J'entends souvent la même ligne. quand les municipalités s'occupent d'enjeux qu'on ne pense pas que les municipalités devraient s'occuper. Pour deux raisons. Des fois, c'est une déresponsabilisation de certains paliers de gouvernement. Puis comme ça tombe dans le cours du municipal parce que ça se passe dans les villes, on peut penser à l'itinérance, par exemple. Ben là, oui, il y a des sommes qui sont quémandées au provincial. Puis c'est comme si, tu sais, les villes sont là avec les mains, dire on aimerait avoir un peu d'argent, puis quémandent au provincial pour certains enjeux de la sorte. Puis quand c'est des enjeux que certaines personnes n'aiment pas, on dit toujours la même chose. Les villes, c'est censé s'occuper des nids de poules, des lampadaires, de la collecte des ordures. Pourtant, cette subvention-là tend à vouloir s'occuper d'un problème, c'est-à-dire le ramassage des vidanges qui coûte de plus en plus cher pour l'enfouissement. Je dis, c'est pas plus simple que ça. Moi, dans ma tête, ça va dans la table des villes. C'est pour ça que les villes donnent ces subventions-là. Tu sais, si on se dit, ça sera au provincial de faire ça, mais tu sais, les budgets du provincial viennent aussi des contribuables, municipaux, même chose, ou des organismes. Mais ils s'organisent via des subventions, ça devrait être également la même chose. Peut-être moi aussi qui comprends pas l'affaire, mais je comprenais pas le point de vue de Madame Normando à ce sujet. Moi, dans ma tête, ça va vraiment dans la course du municipal. Puis ils se disent, ben nous, notre but, comme ça nous coûte cher d'enfouir des déchets, on doit trouver d'autres mécanismes pour que les citoyens aient des comportements qui vont moins mettre à la rue dans leur bac noir ou dans leur poubelle des déchets, c'est-à-dire le compost, le recyclage, puis aussi, tu sais, les couches. Ah, c'est vrai que ça utilise beaucoup le bac à ordures. Elle est arrivée avec une autre... elle a voulu parler de dédoublement en disant non, mais il y a un autre programme qui existe au provincial. Marois Risky lui aurait lancé cette ligne. On écoute Nathalie Normando ce matin au 88.5.
Si les municipalités veulent faire une différence pour ces femmes, pour ces, par exemple, toutes ces personnes qui ont besoin de couches, pourquoi pas verser une subvention à des organismes communautaires qui pourraient aider ces personnes?
Oui, excusez, ça c'était la ligne, je me suis mélangé entre les deux rues. Ça c'était la ligne justement des organismes communautaires. C'est-à-dire, on voudrait pas que la ville s'en occupe, mais la ville devrait donner de l'argent de la ville à un organisme communautaire pour que l'organisme communautaire s'en occupe. Et ça, c'est pas du dédoublement, je me demande ce que c'est. Là, c'est maintenant la ligne du dédoublement avec Marois Risky. On écoute toujours Nathalie Normando. Ce matin, au 98.5, à l'émission de Paul Arcand.
Puis sachez également, puis merci à Marois Risky qui vient d'envoyer ça, le programme d'aide, il y a un programme d'aide qui existe pour les couches d'incontinence, ça s'appelle le programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination, quel beau titre, n'est-ce pas? Ça relève des CIUS et des CIS pour les couches d'incontinence. Hein. Au gouvernement, on a une capacité absolument extraordinaire d'inventer des noms de programmes.
Il y a un comité qui existe juste pour trouver des noms de programmes.
Oui, je le rappelle, pour ceux et celles qui en auraient besoin, les couches d'incontinence, c'est programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination.
Ça aurait été une bonne ligne. En fait, ça pourrait être une bonne ligne si c'était un programme qui touchait les mêmes personnes. Là, je le répète, là, la ville de Laval, à la fois les produits d'hygiène durable, c'est pour toutes les femmes et les personnes qui veulent avoir des produits d'hygiène durable, puis également les personnes qui veulent avoir des culottes d'incontinence lavables pour tous. Mais le programme dont elle parle, moi, je vous dis, ça m'a pris 2 secondes écart. Encore une fois, ça me fascine à quel point des fois il y a des gens qui vont donner une information à la radio comme ça. T'es dans la voiture. Moi, c'est parce que quand j'écoute la radio, je suis devant mon ordinateur. Puis je peux faire pause parce que je télécharge les extraits de ces clips-là. Fait que moi, je peux faire pause quand je suis un épais puis je comprends pas de quoi on parle. Là, dans ce cas-ci, on parle du programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination. Ah, c'est drôle un titre. Puis les gens ils ont toujours des noms de programmes complexes. Puis c'est bien drôle. Puis après ça, on passe à un autre appel en disant ah, ce programme-là existe déjà pour les CIS puis les CIUS, fait que le municipal devrait pas s'impliquer là-dedans. Je suis allé sur le site du gouvernement du Québec voir le programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination. Je vais juste vous lire la description, puis dites-moi si ça rentre dans les mêmes tales. Ce programme s'adresse aux personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme entraînant des problèmes d'élimination urinaire ou intestinale. Il s'adresse également aux personnes ayant une trachéostomie. Trachéostomie. Différentes aides matérielles sont attribuées par ce programme en fonction des besoins spécifiques de la personne. Il peut s'agir notamment de culottes d'incontinence, de cathéters, de sacs urinaires, de gants, de seringues, de solutions nettoyantes pour sacs, etc. Les sondes subpubiennes sont admissibles à ce programme puisqu'elles ne sont pas au programme de stomie de la RAMQ, lequel couvre la colostomie, ça c'est des mots que j'utilise pas souvent, c'est pour ça que j'ai l'air d'un épais à les prononcer à la radio. L'iléostomie, l'uriostomie permanente. peut-être moi qui est un épais, ou c'est peut-être parce que j'ai fait une recherche très rapide pour me rendre compte que les deux programmes ne visent pas les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes besoins. Quand on parle de sac urinaire, de gants, de seringues, de culottes incontinentes, c'est pas des culottes incontinentes lavables. En tout cas, sur le site, on ne parle pas de culottes incontinentes lavables. C'est juste des culottes d'incontinence. C'est pas que le programme ne devrait pas exister. Celui-ci, je suis certain et je suis persuadé que ce programme est ultra pertinent, mais ce programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination n'a aucun rapport avec ce que la Ville de Laval a proposé à son conseil de ville aujourd'hui même. Peut-être moi qui étais épais, là. C'est peut-être parce que, justement, Mme Normandeau a fait sa chronique aujourd'hui sur un coin de table. Puis, à savoir pourquoi, justement, c'est les villes qui doivent utiliser ça. Tu sais, le communiqué de presse de la ville est quand même, somme toute, assez concis. Encore une fois, c'est un classique communiqué de presse avec des comités, des conseils, des membres du conseil exécutif qui ont des phrases qui sont mises dans ce communiqué de presse-là. Mais l'article de Radio-Canada de Marie-Josée Paquette-Comeau sur le site de Radio-Canada, ici Grand Montréal, Laval, une aide financière pour les culottes d'incontinence et les produits menstruels, la ville offrira jusqu'à 50 $, si on le savait. Puis là-dedans, on apprend plus d'infos à savoir c'est quoi les critères. Avoir cumulé un minimum de 100 $ d'achat de produits menstruels ou d'incontinence. Donc là, à ce moment-là, une fois que vous avez votre facture, vous faites votre demande à la ville de Laval, puis vous pourrez avoir un maximum de 50 $ pour le montant pour 2024 qui avoisine les 50 000 $. Limite d'une subvention par personne, possibilité de subventionner plusieurs membres d'une même famille, achat en ligne admissible et ou dans plusieurs commerces. Puis là, c'est intéressant parce que dans l'article, on nous dit « En tenant compte de la durée de vie des produits réutilisables, la Ville estime que chaque tranche de 279 $ de subvention octroyée pour des culottes d'incontinence durable permettra d'éviter une tonne de déchets. Ce montant grimpe à 4 150 $ par tonne pour les produits menstruels. » C'est des gros bidous. Là, après ça, l'article plus bas nous dit « L'aide financière pour achat de couches pour bébés ainsi que pour les produits menstruels existent déjà dans des dizaines de municipalités partout au Québec. Laval avait déjà aussi le programme de couches lavables pour les bébés. J'ai pas entendu Nathalie Normandeau déchirer sa chemise là-dessus. Peut-être parce qu'elle n'était pas au courant non plus. Ça se peut que ça soit le cas. Elle oscille entre 150 et 180 $ par personne par année selon le cas. À Montréal, 17 des 19 arrondissements proposent ce coup de pouce financier, mais seulement 9 d'entre eux ont élargi la subvention aux aînés. Puis, je trouve ça intéressant parce que oui, il y a des personnes âgées aussi qui ont des culottes d'incontinence. Puis, tu dis tant qu'à faire, s'il y a des gens qui veulent avoir des culottes, des couches d'incontinence lavables, pourquoi pas qu'une subvention pourrait être octroyée. Moi, honnêtement, je vois pas un gros cas là-dessus, mais ça a l'air qu'hier, Paul Arcand lui a fait une entrevue avec le maire de Laval quand le communiqué de presse est sorti, puis il est pas du même avis que moi.
Monsieur Boyer, j'entends mes auditeurs dire à haute voix, là, les villes, avec raison, là, se plaignent d'un sous-financement. Les villes se plaignent qu'elles ont des responsabilités accrues, que Québec les regarde en levant le nez. Demain, c'est le budget du Québec. Tu dis, OK, est-ce que ça, c'est vraiment une priorité? Peu importe que ça soit 50 000, 100 000, peu importe que ça vienne d'un fonds là, qui est dédié au changement climatique, il me semble qu'il y a d'autres priorités.
Je suis pas d'accord.
Okay.
La gestion des matières résiduelles, si j'ai déjà visité des dépotoirs, c'est incroyable la quantité de déchets qu'on produit. Puis moi, je pense qu'on a un rôle à jouer à ce niveau-là.
Je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu de dépotoir. Je crois pas une seconde que 50$, ça va changer le comportement.
Monsieur Arcand a le droit d'effectivement de dire, est-ce que 50$ sur un minimum de 100$ d'achat va faire qu'il y a des gens qui vont changer, en fait, un comportement? Peut-être pas. Est-ce que la réponse devrait, faudrait que le montant soit plus élevé? Je ne sais pas. Mais c'est toujours cette vision-là de dire, tu sais, les municipalités font des programmes comme ça qui peut-être vont dormir, l'argent va dormir dans les coffres parce que personne va demander cette subvention-là. Peut-être qu'il va y avoir un petit montant qui va être alloué pour publiciser ce programme-là qui ne sera pas retrouvé. Si toutes les sommes ne sont pas données en subvention puis le programme n'est pas reconduit, ils vont prendre ces sommes-là, les mettre ailleurs. Faut savoir aussi que ces sommes-là ne viennent pas non plus de la poche des contribuables en tant que tels. C'est pas prélevé à même le compte de taxes. Puis Stéphane Boyer le disait, le maire de Laval, dans l'entrevue, c'est de l'éco-fiscalité. La manière dont des entreprises, en fait, s'installent à Laval, quand ils font des... J'aurais dû sortir la clé, puis il aurait dit mieux que moi. Mais lorsqu'on arrive pour bâtir, en fait, lorsqu'il y a de la construction à Laval, il y a un montant qui est perçu là-dedans, qui va aller pour des subventions vertes. Tu sais, il faut savoir aussi que le coût là, d'enfouissement des déchets, là, je suis tombé sur un ancien article du Courrier Laval de 2020. À l'époque, c'était 55 millions de dollars par année pour l'enfouissement des déchets. C'est des gros bidous. On oublie à quel point ça coûte cher d'enfouir des déchets, puis à quel point ces montants-là vont augmenter. Il y a Luc Ferrandez qui je suis pas trop sûr d'avoir compris en fait dans son topo, son calcul. Je vais vous le faire écouter. Je sais pas où est-ce qu'il a sorti ces chiffres, mais Luc Ferrandez, lui, après Nathalie Normando, a voulu dire il y a une évaluation économique de la chose. On écoute.
Au niveau des coûts. Ça s'applique, là, c'est correct. Économiquement, il y a un gain. Une couche lavable coûte 1,70 $. Puis il en faut 30 pour éliminer une tonne de déchets. Ce qui fait 51 $ de couche lavable. Tandis que l'élimination d'une couche de déchets coûte 180 $. Donc, l'élimination d'une tonne de déchets coûte 3 fois plus cher que si tu donnes des subventions pour les couches lavables.
L'affaire, c'est que j'ai vu qu'il y a certaines MRC qui disaient que pour eux, une tonne de déchets enfouir, ça coûtait 180 $. Mais j'ai été vérifié, encore une fois, avec un article du Courrier Laval, qui nous disait que à Laval, une tonne de déchets pour l'enfouissement, dépendamment du contrat qui a été signé, compte tenu la taille du marché que représente Laval, les tarifs obtenus dans le cadre de ce contrat sont concurrentiels, variant de 34,92 la tonne en 2021 à 39,24 en 2026. Fait que là, on est en 2024, ça l'oscille entre 34 et 39 $ la tonne. Fait qu'on est très loin du 180 $ la tonne. Fait que là, tu te dis, si tu lis en fait l'article, on revient à Radio-Canada, que la ville estime que chaque tranche de 279 $ de subvention octroyée pour les culottes d'incontinence durable permettra d'éviter une tonne de déchets. Mais si une tonne de déchets nous coûte 39 $ à enfouir, puis ça nous coûte 279 $ de subvention, là, on y arrive pas. Fait que je comprends pas les chiffres. Soit le Courrier Laval a des chiffres beaucoup trop bas, mais de ce que je comprends, c'est un chiffre qui semble être, que j'ai vu dans plusieurs articles, dépendamment de plusieurs municipalités, parce que la moyenne, la plupart des municipalités, c'est sur entre 35 et 66 $ la tonne pour l'enfouissement dans la grande région de Montréal. Plus vous êtes éloigné, j'imagine, plus ça doit être cher, parce que les dépotoirs, des fois, sont beaucoup plus loin. Nous, ça a l'air qu'à Laval, comme il y a un dépotoir à Terrebonne, on s'en va enfouir nos déchets où est-ce que la ville est de terre bonne humeur, on a 39,24 la tonne. Mais l'affaire, c'est que ces dépotoirs-là s'accumulent rapidement. Dans quelques années, les prix vont exploser parce que le nombre de dépotoirs diminue, la capacité diminue. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de villes qui se disent, on va y aller avec le compost parce que tout votre bac, en fait, à ordures, il y a un très, très grand pourcentage de ce bac-là qui sont des matières organiques qui peuvent aller au compost. Puis on exclut là, les sacs de feuilles, on exclut le gazon, tout ça allait il y a quelques années dans les ordures. Maintenant, on peut faire du compost avec ça, on peut faire un très bon compost, un compost de qualité, mais il faut que le compost soit accessible. T'sais, même à Laval, là, il y a les 7 à 24 logements où le compost a commencé à être installé. Les restes, les endroits où c'est 24 logements et plus. Tu sais, il y a des gens qui m'appellent au travail, qui me disent quand le compost va arriver. Ça s'en vient. On n'a pas encore de date précise pour ça, mais c'est quelque chose qui va arriver. Ça l'aide grandement à réduire les déchets. Mais honnêtement, pour une subvention de 50 000 $ pour dire on va arriver avec ce projet-là, pour se dire il y a des gens qui justement voudraient passer à des couches d'incontinence lavables, des produits d'hygiène également réutilisables. Ben pourquoi pas, tu sais, 50 000 $ sur un budget de 1,17 milliard $, c'est pas beaucoup. Puis justement, j'avais en tête une subvention que moi je me posais beaucoup de questions. Laval, il y a plusieurs années, donnait une subvention pour des voitures électriques. Il y en avait une pour le provincial, il y en avait une pour le municipal. C'est comme on veut réduire nos gaz à effet de serre, comme je comprends, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment une ville de donner une subvention pour une voiture électrique? Finalement, la subvention a été arrêtée. Et il y a une subvention également pour les vélos électriques. Puis ça aussi, je me posais des questions parce que je me disais, beaucoup de gens qui demandaient cette subvention-là, c'était pas pour changer leur mode de transport, pour par exemple aller au travail puis se dire au lieu de prendre ma voiture, je vais prendre un vélo assistance électrique pendant l'été, une partie de l'automne, une partie du printemps. Puis justement, Stéphane Boyer, le maire de Laval, en a parlé à l'entrevue avec Paul Arcand pas plus tard qu'hier. Je trouve ça intéressant parce que Jonathan Trudeau et justement Paul Arcand mentionnaient que au provincial, on se pose pas de questions sur justement des programmes qu'on instaure pour dire est-ce que ce programme-là fonctionne? Si oui, sinon on l'enlève. Moi, je suis comme, je sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça. Peut-être qu'il y a certains programmes qui ne sont pas étudiés. Bizarrement, tous les programmes que moi j'avais en tête qui ont été retirés ont justement été étudiés. Le meilleur exemple, c'était, moi ça me touchait personnellement, parce que lorsque je faisais faire ma comptabilité à chaque année, j'amenais mes passes d'autobus parce qu'on avait un crédit au fédéral, je pense, de 30%, je pense, sur le montant qu'à chaque mois on mettait pour le transport en commun. Qu'on avait un bon crédit pour cela, mais eux, ce crédit-là, c'était pour favoriser qu'il y ait plus de gens qui prennent le transport en commun. Malheureusement, ça s'est pas avéré, fait que se sont dit, au lieu de donner un crédit et donner une bonne tape dans le dos à ceux qui continuent de prendre le transport en commun, on va prendre cet argent-là, puis justement développer le transport structurant pour qu'il y ait plus de personnes qui prennent le transport en commun. Eux, c'était leur but, c'est-à-dire... Moi, j'étais comme, OK, d'accord, mais ultimement, ça serait peut-être le fun qu'on encourage les gens qui décident de ne pas prendre la voiture solo pour se rendre au travail, se déplacer, ceux qui sont à pied, ceux qui sont en vélo, ceux qui prennent le transport en commun. Ça serait peut-être le fun, mais je comprends à l'époque pourquoi le fédéral a fait ça. Dire, nous, notre but premier de ce programme-là, c'était qu'il y ait plus de monde qui prenne le transport en commun. Le crédit d'impôt n'a pas fait fluctuer ça. Donc, cet argent-là qu'on donnait en crédit d'impôt, on va le mettre pour des réseaux de transport structurant. Ce qui a fait une enveloppe, par exemple, pour, vous savez, le transport structurant qu'ils sont en train de faire à Québec, là. Non, c'est pas tout à fait le cas. Ça, c'est en pause. Mais c'était ça le but, tu sais. Fait que, justement, Stéphane Boyer parlait de la subvention du vélo électrique, puis j'ai trouvé ça intéressant.
Pour toutes les subventions qu'on met en place, on réévalue continuellement nos programmes. Donc, des fois, on essaie des choses, on va faire des sondages, on va aller rencontrer des gens qui ont utilisé la subvention en cours d'année. C'est arrivé dans le passé qu'on a aboli des subventions parce qu'on rencontrait pas les objectifs.
Comme quoi, par exemple?
Par exemple, les vélos électriques. On avait une subvention pour encourager l'achat de vélos électriques. Donc, on a octroyé plusieurs subventions, on a fait des sondages, on a rencontré des gens qui l'ont demandé. Puis on les questionnait, c'est quoi l'usage qu'ils faisaient du vélo? Est-ce que ça avait eu un changement? En fait, est-ce que ça avait influencé leur idée? Est-ce qu'ils avaient acheté le vélo parce que la subvention existait? Et au final, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en termes de réduction des GES, on n'atteignait pas nos cibles. Ça revenait très cher par tonne de GES émise parce que les gens n'utilisaient pas le vélo pour des déplacements fréquents, mais seulement de manière plus de loisirs une fois de temps en temps.
Okay,
donc, on a aboli cette subvention-là.
Alors, si le programme que vous annoncez aujourd'hui ne marche pas, vous allez l'abolir?
On va l'abolir, puis à l'inverse, si ça fonctionne très bien puis qu'on atteint nos cibles, ben on va peut-être bien le bonifier. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche qui est rigoureuse puis qui est scientifique. On quantifie les gaz à effet de serre et les tonnes de réduction des déchets qui vont au centre d'enfouissement. Donc c'est vraiment pas de le faire parce que ça sonne bien, mais c'est de le faire en ayant des objectifs à atteindre.
Puis chaque programme devrait servir à ça. Il y a Luc Ferrandez qui disait, tu sais, c'est bien beau, ce programme-là, peut-être ça fait un communiqué de presse, ça fait comme des villes comme Laval tendent à faire réduire justement le nombre de déchets qui sont enfouis par année. Mais Luc Ferrandez, lui, est allé beaucoup plus loin en disant, ben non, on devrait tarifer les gens, ben, pas tarifer, dire obliger les gens à faire du compost, sinon il va avoir des pénalités. C'est comme... Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis peut-être encore une fois trop jovialiste. Dire, ça pourrait passer par l'éducation parce que de ce fait, quand le compost à Laval a été instauré dans les 4 dernières années, en fait, en 4 ans, le poids des déchets qui sont partis à l'enfouissement ont diminué de 20%. Là, il n'y a pas eu de bâton. Là, c'est même pas. Puis ça peut être considéré comme une carotte, juste dire, vous avez un bac supplémentaire. Vous avez maintenant le bac bleu pour le recyclage, le bac noir ou gris, là, dépendamment. Est-ce que la robe elle est bleue? Bleu et noir ou doré. Le bac, nous, on dit qu'il est noir, mais il est plus gris. C'est les ordures. Puis là, vous avez un bac brun pour les déchets, à part, il y a trois zones à Laval qui avaient des bacs verts, ça, c'est il y a très, très longtemps. La collecte à 3 voies, comme Chalotte au Champfleury, qui avait le compost depuis longtemps. Mais juste le fait d'instaurer la collecte du compost a fait diminuer de 20% en 4 ans le poids des déchets qui ont été à l'enfouissement. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est suffisant? Il y a encore des gens qui mettent tout dans le même bac parce qu'ils sont peut-être seuls à la maison puis ils disent, moi, j'ai pas 3 bacs à transporter. Puis des gens qui veulent rien savoir aussi. Est-ce qu'ultimement, il faudrait y aller avec la technique du bâton? Peut-être, mais moi, je présume et je persiste et signe. Ça doit passer par des mesures incitatives. Ça doit passer par un renforcement positif de dire, voici des bonnes pratiques à avoir parce qu'ultimement, tout le monde est gagnant. T'sais, le moins la ville va prendre de ces taxes-là pour enfouir des déchets, ben, elle va pouvoir faire d'autres choses. Puis pour moi, ben si on nous dit que la ville, ça sert juste également au nid de poule, à l'éclairage, à l'aqueduc, puis au vidange, ben cette programme-là que la ville instaure, pour moi, ça rentre vraiment dans la table des ordures, parce que leur objectif de base, c'est de faire diminuer les ordures qui s'en vont à l'enfouissement. Est-ce que ça va réussir ou non? Bon, on va le savoir en 2025. On s'en va en musique avec une nouveauté de Population 2, un EP qui s'appelle Serpent Échelle, qui va paraître le 19 avril prochain. On va entendre la chanson RB sur les ondes de la marge, tout au plus de hits. Nouveauté de Population 2, la pièce R.B. du EP Serpent Échelle à paraître le 19 avril prochain. Je vais commencer comme j'ai entendu parler du sujet. Comme je le disais, manifestation la semaine dernière pro-palestinienne devant une synagogue. J'avais vu un tweet parler de cela avec une photo. Puis je me suis dit, pourquoi devant une synagogue? Pas sûr que les manifestants s'aident dans ce cas-ci. C'est juste qu'on va manifester devant une synagogue. Ça a été mon premier réflexe. Après ça, je me suis dit, peut-être une raison. En tout cas, je vais garder ça en tête. Puis je vais suivre le dossier un peu plus tard. Après ça, je vois un article de la presse, une manifestation pro-palestinienne devant le musée de l'Holocauste. Je suis comme, OK, d'accord. Mais bizarrement, le titre de la presse, puis je pense pas bizarrement, je pense qu'ils se sont dit, on va mieux titrer la situation parce que c'est pas juste une manifestation pro-palestinienne devant le musée de l'Holocauste. Juste dit de même, ça sonne bizarre. Le titre de l'article est devenu « Des manifestants s'opposent à la venue de soldats israéliens au musée de l'Holocauste ». C'est comme, ah! Il y a comme une différence, deux dans le titre, puis par la suite, l'article dans la presse qui est sorti de Lila Dussault le 5 mars dernier faisait mention de la situation. Je vais juste laisser ça comme ça. Admettons, vous avez pas vu l'article de la presse, vous l'avez pas lu, vous écoutez Cube, soit à la télé, soit à la radio, vous entendez Richard Martineau recevoir en entrevue, en fait, une représentante, comme je le disais en début d'émission, du CIJA, le Center for Israel and Jewish Affairs, en entrevue pour parler de cette manif-là. En fait, tout d'abord, on va juste prendre un instant pour entendre ce que Richard Martineau a mentionné. Comment lui, il a résumé la situation?
Alors hier, il y a eu une manifestation raciste, inquiétante et importante à Côte-des-Neiges. Une foule agressive et intimidante qui a encerclé un bâtiment central de la communauté juive à Côte-des-Neiges et qui ont harcelé les gens, pas parce qu'ils étaient pro-Netanyahou, parce qu'ils étaient juifs. C'est vraiment ça, rien que parce qu'ils étaient juifs. Ils leur ont pas demandé, eux autres, est-ce que vous êtes pour la solution à deux États? Qu'est-ce que vous pensez du Hamas? Qu'est-ce que vous pensez de la Palestine? Non, t'es juif, t'es un méchant. Nous allons parler avec Etta Youdin, vice-présidente de Québec du Centre consultatif des relations juives et israéliennes.
Bon, ça, c'est du grand Richard qui ne semble pas saisir le problème. Lui, il a vu des gens manifester devant le musée de l'Holocauste, devant une synagogue. Il dit ces gens-là étaient racistes. Il se base sur quoi pour dire ça? Je sais pas trop, mais c'est Richard. T'sais, des fois, il y a la science infuse. On va entendre trois extraits de cette entrevue-là où Etta Youdin du CIJA tout d'abord raconte la manifestation qui s'est déroulée devant le musée de l'Holocauste dans la nuit du 4 au 5 mars. On écoute.
Écoutez, rappelez-nous ce qui s'est passé hier, Madame Youdin.
Regarde, je vous comprends et j'ai presque pas dormi hier soir. J'ai reçu tellement d'appels de la communauté, justement des gens qui n'ont pas du tout arrivé à comprendre ce qui s'est passé hier soir. Ça n'a aucun bon sens de s'attaquer à des Québécois dans leur centre communautaire et d'avoir une situation où personne ne pouvait entrer ou sortir pendant 3 heures. Les manifestants, si on peut leur appeler des manifestants, ont été assez clairs de leurs intentions d'essayer de perturber l'événement, de bloquer les entrées. Et on a eu beaucoup de conversations avec le SPVM, justement pour assurer que ça ne serait pas le cas. Et finalement, c'était le cas.
OK. Ça, c'est sa vision de l'histoire. Elle a parlé d'un événement. Puis là, c'est là que, justement, il y a des gens qui se disent ben, peut-être de quel événement il s'agit. Tout le long de l'entrevue, là, je vous ai juste le titre de la presse, je vous le répète, là, la manifestation devant le musée de l'Holocauste qui est devenue « Des manifestants s'opposent à la venue de soldats israéliens au musée de l'Holocauste », à savoir pour qui étaient ces soldats israéliens, pourquoi ils étaient au musée de l'Holocauste, de quoi ils venaient parler. Ça, on n'en fait pas mention dans l'entrevue. Est-ce que c'est parce qu'ils allaient mal paraître s'ils expliquaient la cause ou la raison de la manif? Je sais pas, je veux pas leur prêter d'intention, mais Richard Martineau là a comme commencé à se dire ah quoi, il y avait un événement, mais juste avant le deuxième extrait de Etta Youdin qui est en entrevue avec Richard Martineau la semaine dernière à Cube.
Et Madame Youdin, c'est quel bâtiment qu'ils ont encerclé?
C'est le cœur de notre communauté, c'est le centre communautaire de la Fédération CJA. C'est où siègent plusieurs agences de la communauté qui servent tous les besoins de la communauté, services sociaux, le musée de l'Holocauste, la bibliothèque juive, ils sont tous là, ainsi que nous et d'autres agences. Et regarde, j'avais des membres de mon équipe qui étaient bloqués dans l'édifice pendant 3 heures. Finalement, il y a la... c'est aucun bon sens. J'arrive pas à digérer ce qui s'est passé. Je suis en colère.
Puis là, tu te dis, OK, oui, il y a vos bureaux, mais il y a aussi le musée de l'Holocauste. Puis là, je me dis, yeah, il y a une manif. Moi, ça m'a rappelé, en fait, un événement. Je veux pas tout le temps tout ramener à 2012, mais pour moi, mes exemples marquants sont 2012. Il y a un moment où il y a une manifestation devant les bureaux de l'Auto-Québec en 2012. Puis je me rappelle, il y a des journalistes et des chroniqueuses qui disaient, mais pourquoi les étudiantes et les étudiants vont manifester devant les bureaux de l'Auto-Québec? Ça, c'est au plus fort des manifestations étudiantes. Je comprends que l'Auto-Québec, au Québec, c'est avec le gouvernement. On comprend ça, mais leurs combats sont avec le gouvernement, ne sont pas avec l'Auto-Québec. Puis personne n'a flashé de « Hey, cette bâtisse-là où il y a l'Auto-Québec, il y a également d'autres bureaux. » Puis il y avait les bureaux de la Crépuc à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez de la Crépuc, ça a changé de nom depuis, mais ça regroupait les recteurs et les principaux des universités du Québec. Ben, leur bureau était au même endroit et la manifestation était une manifestation justement devant les bureaux de la Crépuc. Mais les gens ont vu, hein, l'Auto-Québec, le logo est gros et plus gros que celui de la Crépuc. On fait, ah, il y a une manif devant les bureaux de l'Auto-Québec, pourquoi il y en a contre l'Auto-Québec? Non, la manif était devant la Crépuc. Dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose. Oui, il y avait les bureaux du CIJA, mais il y avait aussi le musée de l'Holocauste. Et là, Richard Martineau commence à comprendre pendant sa propre entrevue, peut-être qu'il n'a pas lu sa revue de presse avant de faire l'entrevue, où il dit « Ah, moi, ce que je pense de ça, tout ça est raciste, puis on va en parler avec le CIJA. » Là, il se dit « Ah, il y avait un événement. » On écoute toujours Richard Martineau la semaine dernière à Cube.
Et il y a un événement qui se déroulait dans le bâtiment. C'était quoi cet événement-là?
C'était... regarde, il y avait beaucoup de choses qui déroulaient dans l'événement. Il y avait aussi des professionnels, des agences qui n'ont pas encore fini la journée. Il y avait un événement de quelques groupes étudiants qui ont tenu un événement justement d'un groupe Diplo Act. Mais on peut parler de l'événement, on peut parler du conflit, on peut parler de beaucoup de choses, mais finalement, on reste avec la situation où on n'était pas capable, en tant que Montréalais québécois, de sortir de notre édifice ou de faire rentrer des gens pendant une période de 3 heures.
Au plus fort de cette entrevue-là, c'est ça, il était comme nous, on était dans nos bureaux, on n'a pas pu sortir pendant 3 heures parce que les manifestants ne voulaient pas laisser entrer ou sortir les gens. Oui, il y avait un événement, on peut parler de l'événement, des étudiants. Ben, tout le long de notre vie, on ne savait pas quel était l'événement. Mais si vous lisez l'article de la presse de Lila Dussault, vous comprenez que l'événement était organisé par des groupes étudiants qui devaient au début faire ça à Concordia. Finalement, Concordia a annulé l'événement. Puis, il y a eu justement une manifestation. La manifestation était en quelque sorte que des gens étaient ne voulaient pas en fait que des soldats, des forces de la défense israélienne prennent la parole au musée de l'Holocauste de Montréal. La manifestation, c'était ça. Puis, ces personnes-là, en fait, de la réserve de l'armée, là-dedans, qui devait avoir lieu à l'Université de Concordia. Là, je vous lis un extrait de l'article. Trois soldats de la défense israélienne étaient attendus pour parler de la lutte contre la délégitimisation d'Israël, selon le journal The Link. L'un des soldats invités, Abi Volkovich, j'espère que je prononce bien, Volkovich, je crois, j'espère que je prononce bien, avait déjà affirmé dans une vidéo publiée sur Instagram que les enfants palestiniens visés par l'armée israélienne étaient des terroristes. Je veux dire, moi là-dedans, là, juste tu lis l'article puis tu comprends pourquoi il y a une manifestation. Je comprends que c'est un message quand même. C'est des images qui sont fortes. T'sais. On va manifester devant le musée de l'Holocauste. C'est pour ça que lorsque la presse avait titré une manifestation pro-palestinienne devant le musée de l'Holocauste, ça fesse dans le dash, comme on dit. Mais après ça, lorsqu'on nuance la situation, puis qu'on change le titre de l'article pour des manifestations s'opposent à la venue de soldats israéliens au musée de l'Holocauste, puis on comprend que ben un de ceux-ci qui fait un amalgame plus que douteux, à savoir que tous les enfants palestiniens étaient des terroristes, et comme je comprends pourquoi il y a une manif, tu sais. Mais après ça, d'entendre une représentante du CIJA aller à Cube avec Richard Martineau, puis faire une entrevue de 8 à 10 minutes en disant on était bloqué pendant 3 heures, puis Richard Martineau qui finit en disant ben c'était une manifestation qui était raciste, parce que c'était devant les bureaux, justement, et les gens qui ont été bloqués à cet endroit-là, c'est parce qu'ils étaient juifs, c'était raciste, pis ci, pis ça, t'es comme... Vous aidez qui, là-dedans? Vous faites juste, encore une fois, envenimer une situation, un enjeu qui est très complexe, puis quand vous êtes même pas capable de relater des faits de base, à savoir pourquoi il y avait une manif, quelle était la raison, pas juste, oh, il y avait un événement, c'était fait par des étudiants, puis Deplo Act. Allez lire Deplo Act, ce qu'il partage sur Twitter. C'est pas Jojo, puis de voir des images de quelqu'un qui, justement, a le logo de Ceasefire dans ses mains et montre la paume de sa main, en fait, devant, et qui tend sa main, qui montre la paume de sa main devant des policiers. Et des gens partagent la photo en disant qu'il faisait un salut nazi, donc il y avait des nazis qui étaient là. Je suis comme, pour vrai, vous aidez qui là-dedans? Qu'est-ce que vous êtes en train de détourner comme image et comme situation? Moi, ça me fait capoter, ce genre de truc-là. Puis il y a une vidéo, il y a des manifestants qui étaient là-bas, qui parlaient dans une langue que je ne comprends pas. Une vidéo de cette soirée-là, où il y a des sous-titres. C'est parce que l'affaire, c'est que la personne qui a partagé cette vidéo-là, son compte Twitter a l'air un peu pas mal sketch. Donc, moi, je peux pas me baser sur les sous-titres, savoir si c'est réel ou non ce qui a été dit, mais de voir Pascal Derry, de voir Jean-François Lisée, de voir des gens partager cette vidéo-là en ne sachant pas si c'est vrai ou non, moi, j'ai un problème avec ça. Si effectivement, il y a des gens pendant la manif qui ont crié « mort à Israël, mort aux Juifs », j'ai un problème avec ça. Mais si c'est pas ça qui est arrivé, puis c'est des gens qui détournent en fait une manif en usurpant en fait certaines phrases et en remplaçant, parce que j'en ai vu là sur les médias sociaux des vidéos où on entend quelque chose, on lit des sous-titres, puis c'est pas tout à fait ce qui se passe. Là, on a un problème. À l'autre opposé, lorsqu'on voit Adil Sharkawi parler dans des manifestations, des rassemblements, parle dans une autre langue que je ne comprends pas, mais des sources plus solides nous disent qu'il disait c'était de la merde. Ça, j'ai un problème avec ça. Mais de voir ce que Richard Martineau a fait dans cette entrevue-là, moi, j'ai un profond malaise avec ça. Encore une fois, Monsieur Martineau, c'est le premier à vouloir nous parler de faire des leçons de journalisme sur plusieurs enjeux. Moi, juste écouter cette entrevue-là pendant 10 minutes, j'ai un profond malaise avec ça parce qu'on ne parlait pas de l'enjeu de fond, savoir pourquoi ces gens-là manifestaient. Quand on comprend pourquoi ces gens-là manifestaient, on se dit... On comprend maintenant, on comprend mieux la situation, mais peut-être c'est justement parce que si les gens avaient compris la situation, qu'ils auraient peut-être vu cette manière-là d'un tout autre angle, c'est peut-être ça que M. Martineau ne voulait pas. Fait que je te fâchais avec ça, puis j'avais le goût de vous en parler. C'est presque tout pour l'émission, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse au bon soin de London Café. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.
On se fait carrément brainwasher, ça n'a pas de sens pour vrai.
Situé au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, le Zarico est la salle de spectacle incontournable dans le paysage québécois. Ce printemps, le Zarico vous promet votre dose d'artistes émergents et reconnus sur les scènes alternatives du Québec. Étienne Dufresne, Violette B, Les Deluxe, Rosalie Ayotte, Libelle, Marco Emma, Philippe B, Charlotte Brousseau et Anak Nib. Rendez-vous sur lezarico.com pour tous les détails et la programmation complète. Venez vivre l'expérience Le Zarico. Parce que Le Zarico, c'est tout. Accessible avec l'autobus 200 à partir du métro Longueuil.
Aller skier en bus, c'est possible et pas cher. Le Skibus du RTL vous transporte au Mont-Saint-Bruno pour le prix d'un trajet de bus. Et des rabais vous sont offerts sur place en plus. Prenez notre ligne 299 au terminus Longueuil tous les samedis et dimanches jusqu'au 31 mars. Vous pouvez même embarquer avec vos skis, planches à neige ou raquettes si vous le voulez. Horaires et infos sur le site du RTL.